sur Radio B. Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales, culture, handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous, pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas, ou ce qui ne se voit pas. Spéciale, quelle place aujourd'hui pour la création musicale à Florence. Et là, nous venons d'entendre Ancora Odono I Cotti, une œuvre écrite pour six voix mixtes en 1967 par Silvano Bussotti. Une introduction musicale justement pour notre propos d'aujourd'hui avec cette grande figure de la musique du XXe siècle en Italie et en Europe qui est née ici, à Florence, où il rencontra notamment au cours de son approche de la musique et de la composition une autre personnalité importante de la musique de cette époque au conservatoire Luigi Cherubini à Florence, en l'occurrence le compositeur Luigi Dalla Piccola. Et Dalla Piccola a trouvé très tôt le type de musique qui devait le stimuler et l'orienter pendant plusieurs décennies, et il disait ceci: comme chacun sait, une seule rencontre peut déterminer l'orientation d'une vie entière. La mienne fut déterminée la nuit du 1er avril 1924, lorsque je vis Arnold Schoenberg diriger son Pierrot Lunaire à la Scala Bianca du Palazzo Pitti. Donc voilà un événement aussi important, et tout cela pour souligner et redire que Florence est un foyer artistique depuis des siècles qui a irrigué toute l'Europe de son inventivité et de sa créativité. Une posture qui a perduré et qui perdure bien sûr jusqu'à nos jours. Alors aujourd'hui, nous allons avec nos différents invités chercher à voir si la réalité florentine permet toujours à cette cité d'être un acteur de premier plan dans le champ de la création musicale, de la musique de notre temps présent. Pour cela, Résonance a installé ses micros au sein de l'Institut français dans le Palazzo Lenzi, Piazza Ognissanti à Florence, et je remercie ici Madame Isabelle Mallet, directrice de l'Institut français, de nous avoir permis de réaliser la présente émission. Et une émission qui s'inscrit dans le cadre de la 37e édition du Festival de musique Gamo, Gruppo Aperto Musico Oggi, groupe ouvert sur la musique d'aujourd'hui. On pourra en parler avec Francesco Gesualdi qui est là et qui est le directeur artistique de ce festival et qui du coup a accueilli hier la présence des 6 voix solistes de Résonance Contemporaine à la salle Vanni, Piazza del Carmine, pas très très loin d'ici, il suffit de traverser l'Arno, dans un programme franco-italien avec une œuvre du compositeur français Philippe Forges, Pecchio pour 6 voix de femmes a cappella, et une œuvre du compositeur italien Alessandro Maggini, Le Rayon Ardent, une pièce pour 6 voix de femmes, électronique et vidéo, avec la collaboration du label discographique Emma Vinci et de l'artiste Marco Bagnoli. Alors, plusieurs invités, bien évidemment, autour de ce micro pour évoquer la place de la création musicale aujourd'hui à Florence. Et j'ai le plaisir en premier de vous accueillir, Madame Mallet, et de vous retrouver, puisqu'il y a un an déjà, Résonance était présente dans ces murs autour déjà de la création contemporaine, Mario Luzzi, et c'est un plaisir de vous retrouver en tout cas. Bonjour. Et puis également à vos côtés, Alessandro Maggini. Bonjour.
Bonjour.
Buongiorno.
Buongiorno.
Vous êtes compositeur, chercheur, vous habitez à Florence. Et puis également, vous êtes professeur de dramaturgie musicale et musicologique à l'Académie nationale d'art dramatique à Rome.
Oui, c'est ça.
Et puis, j'évoquais le Gamo, et donc un de ses directeurs artistiques, Francesco Gesualdi. Bonjour, buongiorno.
Buongiorno et bonjour.
Merci aussi d'être là, accordéoniste également, et puis professeur aussi au conservatoire. Et puis, bien sûr, on en viendra en parler, directeur artistique du festival Gamo. Et vous êtes l'un des acteurs important aussi, la cheville ouvrière aussi de ce festival Gamo depuis de très nombreuses années, qui essaye de valoriser la création musicale contemporaine. Et puis, dans ce côté français, italien, deux invités aussi, français, compositeurs, qui sont là dans cette émission. Philippe Forget, bonjour. Bienvenue dans cette émission, compositeur, chef d'orchestre, enfin une double manière d'aborder la création. Vous dirigez régulièrement de nombreux orchestres, aussi que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis, bien sûr, l'aventure de la composition et de l'écriture.
On a l'occasion d'en parler avec plaisir.
Voilà. Et puis aussi également, autre compositeur français, Lucien Guérinel. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Et c'est bien, il y a plusieurs générations autour de cette table, de l'aventure de la création, mais c'est ça aussi qui est important. Compositeur et aussi poète. Également, l'amour des mots, également. Et puis, une musique portée par des ensembles que vous avez accueillis aussi, je pense à Musica 13, dont vous avez longuement collaboré, cher Lucien, et puis assumé aussi la présidence, aussi à un moment donné, mais aussi d'autres ensembles, Quintette à vent de Marseille, et puis j'irai un certain nombre de quatuors à cordes aussi importants, Castagnari, Arriaga, Berliner, Selkharmoniker, Quatuor Élysée, voilà, pour dire aussi que votre musique, elle voyage dans de nombreux pays, par le biais aussi de nombreux interprètes. Donc bienvenue à tous dans cette émission. Et peut-être on pourrait commencer ensemble, Francesco Gesualdi, pour essayer d'évoquer, j'évoquais tout à l'heure que Florence, c'est un foyer, un lieu important aussi de la création musicale à partir des années 70 et 80. Avec Bussotti, qu'on a entendu un petit extrait tout à l'heure, Florentin, figure marquante aussi de ce moment, ont permis aussi peut-être qu'un festival un peu comme celui-ci, comme Gamo, puisse exister à un moment donné. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer un peu l'historicité de cette période et comment est né aussi le festival Gamo, du fait un peu de cette émulation très importante.
À partir des années 60, quindi la situation est fiorentina, le rapport de Silvano Bussotti con il Gamo, et quindi come è nato il festival Gamo, le sue origini, il suo sviluppo storico fino alla contemporaneità e il rapporto con i grandi artisti che l'hanno
animato. Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Parlerò in italiano.
Sì, 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 è un piacere d'entendre la langue italienne.
Dunque, il Gamo, che, il cui acronimo sciolto è Gruppo Aperto Musica Oggi, è nato nel 1980 grazie alla brillante idea di un gruppo di musicisti fiorentini tra cui il noto pianista e compositore Giancarlo Cardini, i quali si sono uniti con l'intento appunto di portare la musica contemporanea in maniera organizzata e strutturata a Firenze, guardando in particolare alla musica extraeuropea contemporanea. Infatti grande è stato l'interesse per questa associazione di concerti per la musica americana e per il minimalismo in genere. Questo naturalmente non ha escluso il rapporto costante con i grandi autori europei del tempo. In particolare segnaliamo le grandi collaborazioni che abbiamo avuto con vari compositori della scena del panorama internazionale. Citerei appunto Silvano Bussotti, che è stato un costante collaboratore del Gamo e stretto collaboratore anche del pianista Cardini. E c'è da dire che questi compositori non solo davano il loro contributo al Gamo con le commissioni che ricevevano dal Gamo per le varie stagioni concertistiche, ma erano ospiti del Gamo anche per i corsi di perfezionamento sulla musica contemporanea che il Gamo organizzava annualmente e che ancora oggi organizza.
Peut-être Francesco, si. Puisque Madame Mallet nous fait la gentillesse un peu de relater vos propos,
merci.
On va peut-être justement lui demander déjà de nous faire une premier retour sur ce que vous venez de nous dire sur ce Gamo et sa création.
Donc, GAMO est l'acronyme de Groupe ouvert sur la musique d'aujourd'hui, qui est né en 1980 et qui a essayé de structurer un certain nombre d'initiatives. Très vite, il s'est tourné vers la musique extra-européenne, mais bien entendu, le rapport avec les compositeurs européens n'était pas du tout exclu. Et dans les années 60 et 70, vous avez évoqué tout à l'heure Bussotti, ça fait partie de ceux qui sont venus et qui ont apporté, avec leur collaboration, qui ont participé et apporté leur pierre à cet édifice. Ceux qui ont contribué donc à cela l'ont fait à partir de commandes qui leur ont été passées et en même temps parce qu'ils ont été hôtes du festival et qu'ils ont contribué par des cours de perfectionnement masterclass à la formation d'autres gens.
E tra i vari autori dicevamo non solo Bussotti ma Helmut Lachenmann, Luis De Pablo, Aldo Clementi. È stato un grande collaboratore e amico del Gamo, Aldo Clementi, a cui il Gamo ha anche dedicato una produzione discografica monografica. E c'è anche da ricordare il grande concerto evento, tornando all'interesse del Gamo per la musica extraeuropea, c'è da ricordare il concerto storico, si può definire, nel 1992 con la musica di John Cage, che è venuto qui a Firenze, ospite del Gamo, in una sala gremita. Veramente c'è stata una partecipazione di pubblico straordinaria per la presenza di questo grande personaggio, di questo grande artista del secolo.
A part dans les autres noms, à part Bussotti, je souhaiterais citer Helmut Lachenmann.
Helmut Lachenmann tedesco.
Et Aldo Clementi, à qui on a justement pour qui on a fait une production d'un disque monographique. Et puis, bien entendu, je ne veux pas oublier, en 1992, le concert extra-européen de John Cage, concert historique devant une salle archi-pleine et dont tout le monde se souvient encore.
Donc une dynamique très importante.
Sì, non volevo dimenticare Goffredo Petrassi, un'altra grande partecipazione.
Sì.
Goffredo Petrassi,
Schiarino,
fino ai compositori di oggi, come Solbiati, che proprio quest'anno sta collaborando con noi con una
Lombardi.
Ad una masterclass Lombardi. Toshio Osokawa da pochi anni fa è stato nostro. Pietro Grossi è stato un caro collaboratore del Gamo a cui siamo veramente affezionati.
Absolument, voilà, tout à fait. Et de grands, effectivement, compositeurs qui ont marqué et qu'on connaît bien sûr en France. Alors, certains plus que d'autres. C'est sûr que les Luis de Pablo, Clementi, pas tant que ça, on connaît un peu, mais
Brian Ferneyo, ricordo, ho piacere di ricordare la collaborazione con Brian Ferneyo.
Est-ce qu'on peut vraiment parler donc d'émulation, de foyer, de vraiment d'une dynamique très forte finalement avec toutes ces personnalités, ces initiatives? C'est vraiment une particularité qu'il y avait à ce moment-là à Florence.
Beh, Firenze è stata una città è molto viva dal punto di vista musicale, in particolare in certi anni. Basti pensare che appunto nel 1924 nella Sala Bianca di Palazzo Pitti abbiamo avuto la prima italiana del Pierrot Nunez Schoenberg, quindi già questo era un segnale interessante e importante che dava la cifra dell'interesse che Firenze aveva per la musica attuale, per la contemporaneità.
E dans le public? Ah non, peut-être elle va traduire.
Peu importe, pas de souci.
C'était effectivement une cité particulièrement vive, ouverte à la création contemporaine. Il l'a cité, le concert dans la salle blanche du Palazzo Pitti de 1924.
Oui, voilà.
Oui, c'était une occasion incroyable pour une ville comme Florence d'avoir Schoenberg.
Et oui.
C'était la contemporanéité alors
de l'Europe.
Et la première mondiale.
Voilà. Et parmi le public, il y avait un personnage très important qui était Giacomo Puccini, qui était venu pour écouter la nouvelle musique et il restait très impressionné par ça. Il a continué à faire sa musique, mais il avait compris la force et l'importance de cette nouvelle façon d'écrire musique et de penser la musique.
Peut-être, oui.
Intéressante ricordare che Puccini, proprio per riallacciarmi,
sì,
ascoltando il Piero Noir, disse: questa musica è lontana da me come noi siamo lontani da Marte.
Oui, mais il était là.
Puccini a dit que cette musique était aussi lointaine de la sienne que Mars était l'été de la Terre.
Effectivement.
Mais il était là pour écouter.
Mais
pour
voilà. Comprendre, oui. Absolument. Ouais.
Il était ouvert
c'est
à ça. Hein.
Et peut-être avec vous, là on vient d'entendre un peu ce foyer, cette importance au travers du Festival Gamont et ce qu'il a généré justement, peut-être de votre point de vue à ce moment-là, Alessandro Maggini, justement, dans cette continuité, peut-être aussi cette dynamique-là, c'est quelque chose aussi qui vous a aidé à entrer en musique et qui peut-être vous a conduit à un moment ou à un autre à se lancer aussi dans l'aventure de l'écriture et de la création musicale.
Oui, sans doute. Pour moi, que je suis florentine, alors la culture, l'art de Florence m'appartiennent. Donc, c'est toujours c'est rapporté à la tradition, à une tradition culturelle très forte, surtout la culture de la Renaissance et la contemporanéité. On ne doit pas oublier qu'ici à Florence, au XVIe siècle, Florence c'était une ville où on pouvait expérimenter, on peut dire quelque chose de très important, par exemple le rapport entre la poésie et la musique, et la Camerata dei Bardi, c'était le laboratoire où les humanistes, musiciens, poètes, philosophes, les pères de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, faisaient ici les premiers expériments sur les harmoniques. Donc c'était vraiment la modernité. Alors Florence s'est toujours apportée avec ça. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très important de chercher de tenir ensemble cette
traditions culturelles qui m'appartiennent avec l'exigence de nouvelles modalités de s'exprimer en musique. Mais pour moi, donc, les expériences qui Florence a, qui appartiennent à Florence dans la modernité et sont aussi importantes que les expériences anciennes, et c'est toujours très stimolante, comme on peut dire,
stimulant
hein, se rapporter à ces réalités. Et je voulais dire encore une chose à propos de ce qu'il disait
Francesco
Gesualdi. Il a parlé de Grossi, Pietro Grossi. Et ça, c'est très important parce que, et ça, c'est un peu. Je me rapproche aussi à la Camerata dei Bardi.
Sì.
Il y a des liens.
Des liens forts.
Oui. Parce que Pietro Grossi, il était un violoncelliste, mm-hmm. mais il avait fondé
oui.
et à Florence le premier centre de phonologie musicale pour l'électronique, ici à Florence. Donc, dans les années 60, du siècle
oui.
passé, il avait créé dans le conservatoire de Florence la première classe de musique électronique. Mm. Toujours dans les années 60, il avait fait les premières expériences de computer musique. Après, il avait organisé pour le festival Maggio Musicale Fiorentino les premiers congrès international de centre expérimental de musique électronique. Et après encore, il avait fait la première expérience de télématique musicale, peut-être le premier audio streaming de l'histoire entre Rimini et Paris. Donc, vraiment, Florence, c'était dans les années 60, c'était le centre de la recherche musicale dans le domaine de l'électronique. C'est pour ça que je me suis rapproché aussi à l'électronique sur...
sur aussi la pièce qui a été créée aussi hier soir à la Salvani. Donc du coup, cette dynamique, vous avez cité Alessandro Maggini, le nom d'un autre festival, il y a Tempo Reale, il y a, aux côtés de Gamo, c'est créé aussi une synergie aussi d'autres lieux. Et là aussi, il y a des collaborations fortes, Francesco Gesualdi, avec ces autres entités.
Esiste una collaborazione periodica con le varie realtà fiorentine, e in particolare proprio con Tempo Reale, con cui collaboriamo stabilmente, non tutti gli anni, ma quando c'è la necessità legata a delle produzioni che pensiamo ad hoc per ogni stagione del GAMO o di Tempo Reale.
Donc elles existent ces collaborations, mais elles sont périodiques, en particulier avec Tempo Reale. Ce n'est pas tous les ans qu'on a cette occasion, mais on le fait quand on a des productions qui sont choisies ad hoc, qui sont prévues de cette manière-là.
Anche perché il GAMO ha sempre avuto una particolare sensibilità per l'esperienza legata alla musica elettronica. Mm-hmm. Infatti le collaborazioni con Pietro Grossi sono state sempre costanti e regolari, e molte sono state proprio le produzioni legate a questo importante compositore e studioso di musica elettronica, un rivoluzionario per i suoi tempi, veramente ha fatto sì che la musica elettronica diventasse, si elevasse a materia di studio e di interesse capillare e artistico, insomma.
Donc, d'autant plus que le GAMO a toujours eu un intérêt poussé pour la musique électronique. Vous parliez de Pietro Grossi, mais c'était révolutionnaire en son temps et c'est une matière d'étude encore aujourd'hui. Et c'était un de leurs intérêts.
Thank you.
Est-ce qu'on pourrait, Francesco Gesualdi, évoquer finalement la réalité aujourd'hui? Comment elle est? On avait ce foyer de laboratoire, d'expérimentation, cette émulation très riche, très forte, avec les personnalités qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, de votre place à vous, dire que cette émulation, elle est aussi grande, elle est aussi présente? Ou est-ce que le contexte est différent aujourd'hui?
Questa è una buona domanda. Dunque, oggi il fermento e la vitalità artistica sono immutati. E, rispetto al passato, a 30-40 anni fa, oggi viviamo più il problema del sostentamento di queste realtà concertistiche che si occupano di musica contemporanea. Quindi direi che sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione, che pur c'è da parte delle istituzioni pubbliche, che pur c'è, ma non è adeguata all'impegno che ogni volta dobbiamo sostenere per poter garantire la qualità e produzioni di alto livello con realtà anche internazionali.
La question est intéressante. C'est effectivement, par rapport au ferment d'il y a 30 ou 40 ans, il y a un problème actuel, une réalité, on peut dire, qui, dans les moyens financiers accordés à la création et à tout ce qu'il faudrait faire, ne sont pas assez consistants. Là, même s'il existe des moyens publics, des fonds, ça ne permet pas de vivre comme d'avoir la vitalité d'il y a 30 ou 40 ans.
Detto ciò, possiamo anche tranquillamente affermare che il GAMO è sostenuto dalla Regione Toscana, dalla città di Firenze e da vari istituti culturali, tra cui l'Istituto Francese, dove oggi siamo ospiti e che ringraziamo, così come l'Istituto Tedesco e altre realtà e istituzioni culturali varie, grazie alle quali riusciamo a tenere in piedi questo festival che da 37 anni, senza soluzione di continuità, va avanti brillantemente, direi.
Et justement, je veux souligner que le GAMO est soutenu par la région et par la ville, et aussi par d'autres institutions officielles, donc l'Institut français qui l'a remercié, mais aussi l'Institut allemand. C'est ce qui permet que depuis 37 ans, cette réalité vive, qu'il n'y a pas eu d'interruption, et ça reste un acteur important du paysage de la création.
E per voi, oui, pardon.
Sì, volevo solo aggiungere che quest'anno il GAMO è stato promosso all'interno di un progetto ideato dalla SIAE, che è la Società Italiana degli Autori ed Editori, e il programma è in particolare un nuovo progetto, un nuovo ciclo di concerti che va oltre il Festival GAMO, che porteremo avanti la prossima primavera del 2017. Questa nuova iniziativa sarà finanziata da SIAE, che ha promosso l'iniziativa e ha inserito il GAMO in una serie di realtà che quest'anno verranno finanziate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.
Et justement, il y a une reconnaissance officielle aussi de la part de la CAI, qui est l'équivalent de la SACEM, qui a inséré le GAMO dans un nouveau projet. Et au-delà du festival, au printemps 2017, il y aura d'autres concerts. Et c'est très intéressant pour eux d'avoir été insérés comme GAMO, d'avoir été insérés dans ce projet de la CAI.
Effectivement. Et pour vous, Alessandro Maggini, là c'est le regard que pose Francesco Gesualdi en tant qu'organisateur, endroit pour favoriser toujours ce côté laboratoire, la perception du compositeur, en tout cas de l'individu en tant que tel, dans aujourd'hui défendre une démarche d'écriture, de compositeur dans ce panorama d'aujourd'hui?
Et oui, c'est fondamental le rapport avec des institutions comme le GAMO ou des autres encore, parce que pour un compositeur aujourd'hui, la difficulté la majeure, c'est avoir la possibilité de faire circuler cet répertoire. Et c'est ça, c'est un rapport aussi avec la formation du public, parce que c'est donc la composition, la création, la diffusion à travers des organisations comme GAMO et tout ce qui doit être fait pour permettre au public de pouvoir suivre d'une façon juste, d'avoir la sensibilité pour le langage moderne, parce que pour la peinture, par exemple, c'est un peu plus facile. Pour la musique, c'est plus difficile. C'est un langage qui a besoin d'un rapport, d'une éducation plus profonde, si on veut. Donc, pour un compositeur, avoir la possibilité de cette collaboration, c'est vraiment fondamental, ainsi comme les rapports avec des autres réalités à l'étranger. Ici, nous avons Philippe Forget, et je suis très content de cette collaboration, parce que pour moi aussi, c'est une manière de se confronter même du point de vue de l'écriture. Donc, les moments où il y a des concerts, où on va organiser des soirées, c'est le moment aussi pour se confronter avec des autres expériences. Et c'est vrai, ce qu'il disait Francesco Gesualdi, aujourd'hui la difficulté, c'est une difficulté économique, comment soutenir cette organisation pour faire circuler et pour créer le sentiment de quelque chose d'important pour une ville, c'est-à-dire quelle fonction a l'art aujourd'hui dans une ville. Il doit être quelque chose qui les citoyens sentent comme quelque chose d'important. Donc sont les institutions qui doivent
pouvoir aussi aider à cela.
Aider, oui.
Et accompagner ces acteurs et favoriser aussi cette notion. Peut-être avec vous, Isabelle Mallet, la posture Francesco Gesualdi soulevait bien sûr les collaborations internes entre structures italiennes, mais aussi les autres présences d'autres pays par la culture. L'Institut français est là aussi de très longue date, installé ici à Florence. Peut-être vous, votre perception d'aujourd'hui, alors on a évoqué ce très riche moment musical, laboratoire, mais peut-être ce serait intéressant aussi au regard de ce que viennent dire nos deux invités, comment vous percevez cette création musicale aujourd'hui à Florence par rapport à l'émulation dont on a bien compris qu'elle était tout à fait particulière, génératrice de plein de choses. Vous sentez des mouvements différents? Comment vous la percevez de votre place à vous?
Je vais d'abord faire une première parenthèse pour dire que pour insister sur l'importance dont on ne dira jamais assez combien dans le panorama culturel elle est reconnue davantage par les étrangers que par les Français. Donc l'importance de nos institutions, Institut français à l'étranger, pour la diffusion de la culture contemporaine. Le ministère des Affaires étrangères est encore en France capable de donner de l'argent à des institutions qui aident à la création contemporaine et qui aident à la circulation d'artistes et à la circulation d'œuvres. Ça, c'est très important et je remercie que ce soit toujours nos amis italiens qui le reconnaissent. Le dire, ça a été dit, c'est un moment d'émulation, c'est un moment où en même temps il est difficile d'éduquer le public. C'est toujours et ça reste, mais il ne faut surtout pas renoncer, ça reste encore des choses qui ne sont pas grand public. Quand on a parlé de subventions, c'est toujours le problème entre le grand public et qui attire les subventions et l'inverse. Et j'insiste là-dessus, pour le panorama de la danse contemporaine et de la musique contemporaine, ce sont deux choses qu'il importe que nous puissions continuer à soutenir et d'avoir cette reconnaissance.
Peut-être on va en profiter justement, on a évoqué la présence de Philippe Forget, de Lucien Guérinel, aussi de par rapport à ce que vient d'évoquer, je dirais notamment par rapport à ce foyer déjà, mais aussi voilà dans cette continuité jusqu'à nous, je dirais, et au propos de Madame Mallet, voilà le regard justement du compositeur aussi bien en France, mais aussi qui vient au contact et qui vient dans cette rencontre ici. Peut-être Philippe Forget, un premier retour sur ce qui vient d'être partagé à l'instant.
Oui, moi, ce que j'entends, c'est la richesse de l'existant, la vitalité de l'existant. Ça, c'est quand même important de le redire aussi. Et puis, la nécessité de maintenir les liens entre les cultures, entre ceux qui la font et puis ceux qui la diffusent et qui vont en faire la promotion.
On est tous
dans un faisceau de partenariats bienveillants. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire, on peut avoir toujours peur du lendemain. Il faut aussi savoir se réjouir de l'existant pour mieux communiquer dessus. Ce que j'entends aussi, c'est la nécessité d'imaginer un récit commun autour de cette notion de culture en Europe. Parce que quand j'entends Alessandro parler de Florence, nous, on a des choses merveilleuses aussi. Et il y a tellement de points de rencontre. Il y a tellement de points de rencontre que la dimension européenne autorise aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc, c'est vrai qu'on est dans un principe de culture vivante. On est dans un principe, en ce qui concerne la musique, de spectacle vivant. Donc, de proximité
aussi.
Avec peut-être pas le public, mais les publics. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, de réfléchir sur cette dimension autour des publics, de ce récit commun, des apprentissages. Parce que du coup, effectivement, comment est-ce qu'on va à la rencontre des publics ?
Tout à fait.
C'est la question du projet. Et du coup, c'est quel parcours pour quel projet ? Et je crois qu'on est à ce moment précis.
Précis des choses, oui.
Alors, je crois, vraiment. C'est-à-dire qu'on doit retravailler sur, enfin je pense en France en tous les cas, sur la place de l'artiste dans la cité. C'est-à-dire l'artiste qui est identifié par les institutions, c'est très français, l'artiste qui est identifié par les institutions, qui est missionné pour aller vers des publics, les publics qui sont déjà les publics traditionnels, mais aussi les publics à venir, les publics de demain. Et à partir de là, l'artiste, il a sa place en tant que citoyen aussi dans la cité. C'est-à-dire pour rayonner à travers une activité qui est une activité de proximité. Et je crois qu'on galvaude rien parce que le temps a cette valeur initiatique incroyable. Un parcours musical, c'est pas quelque chose effectivement qu'on va laisser naître en un mois ou deux, mais c'est un accompagnement long, très enrichissant pour celui qui donne cet enseignement et pour celui qui reçoit. Et c'est un échange permanent. Mais vraiment la place de l'artiste dans la cité, peut-être que la cité au sens large aujourd'hui, c'est l'Europe. Hein.
Lucien Guérinel, vous aussi, par rapport à ce que vient de dire Philippe Forget, mais aussi nos amis italiens ici présents et Madame Mallet, votre sentiment aussi par rapport à toute cette question qui est assez large, bien évidemment, mais votre sentiment qui viendrait comme ça?
Oui, elle est trop large pour que je puisse y répondre. En vérité, je vais donner mon écho personnel, mais enfin mon écho personnel, je crois qu'il n'est pas très original. Il rejoint le sentiment de chacun. Bon, on est, comment dirais-je, étonné par la circulation de l'argent public vers l'art en général. Ça, c'est déjà une chose, mais il circule quand même dans ce sens-là. Alors après, on peut se demander si c'est suffisant, si c'est partagé, etc. Toutes ces questions-là. Mais peut-être que l'argent n'est pas le seul facteur de discussion sur telle ou telle réussite ou tel échec ou telle absence. Il y a aussi autre chose, il y a quand même les hommes. Il y a des hommes qui reçoivent et qui sont là pour faire quelque chose, comme c'est le cas, par exemple, ici, avec le festival Gamon. Donc, sur ce sujet-là, je ne peux pas m'étendre trop, d'abord parce que ce n'est pas le lieu, et ensuite parce que ça implique des facteurs très, comment dirais-je, frétillants dans le bocal, pour qu'on puisse le résumer trop. Voilà.
Alors, Philippe Forget a évoqué aussi le rapport au public, aussi c'est allé à la rencontre aussi du public. Qu'en est-il aussi de peut-être ce travail aussi qui peut être fait, je reviens peut-être avec Francesco Gesualdi, au niveau du Gamo par exemple, on a évoqué tout ce travail de laboratoire musical, mais du coup, comment peut-être est travaillée cette notion d'être en lien finalement, en prise directe. On évoquait la cité finalement et la place de l'artiste dans cette cité, mais du coup qu'il est citoyen de cette cité comme un autre, mais du coup ce lien aussi avec les autres acteurs, comment peut-être ça se travaille aujourd'hui au Gamon, et qu'est-ce qu'on essaye de faire justement pour que du coup ce lien se brise pas. On a souvent dit, en tout cas en France à un moment donné, que la création contemporaine s'était un peu coupée justement par les chemins qu'elle avait entrepris, par les directions peut-être qu'elle avait choisies, peut-être un peu d'une certaine partie de la population. Alors il y a des raisons multiples, on va peut-être pas pouvoir toutes les faire, mais peut-être de votre point de vue à vous, comment vous travaillez cette accroche, cette approche en tout cas, ou cet apprentissage aussi pour un public?
Il rapporto con il pubblico è un tema molto delicato, mm-hmm. oggi più che mai, perché diciamo che la tendenza è quella di, diciamo, di, mi sento di dire una cosa un po' forte, ma che c'è un po' un livellamento verso il basso dell'interesse culturale musicale, diciamo così. Quindi, nonostante vari tentativi e sforzi di coinvolgimento anche delle scuole, come i conservatori, noi cerchiamo di organizzare i nostri corsi di perfezionamento nei conservatori, cerchiamo di organizzare degli incontri con i compositori. Ogni qualvolta invitiamo un compositore, noi pensiamo sempre ad una conferenza, quantomeno ad una conferenza del compositore, mm-hmm. ma spesso riusciamo anche ad organizzare una sorta di seminario nel quale si parla della musica contemporanea in genere e in particolare del compositore coinvolto.
Isabelle Mallet, oui. On va nous traduire si. À nouveau.
Merci. Oui, ce rapport avec le public est particulièrement délicat et j'oserais dire qu'il y a une tendance en ce moment à un nivellement par le bas, en particulier dans le domaine de la musique. C'est pour ça qu'il est aussi important d'avoir des programmes qui impliquent en particulier les écoles mmh. ou les conservatoires mmh. et qu'on cherche chaque fois que c'est possible, quand un compositeur vient pour un concert, mmh. de faire une rencontre avec les élèves et aussi d'organiser des séminaire pour parler de la musique contemporaine et de cette circulation.
Penso che il nostro obiettivo sia questo, che lo facciamo, otteniamo dei risultati, non basta, bisogna impegnarsi ancora e continuare nella direzione a cui noi crediamo, a prescindere poi dai risultati, perché spesso ci aspetteremo anche, diciamo, una risposta superiore, adeguata alla qualità della musica che proponiamo. Però non ci lamentiamo, perché noi abbiamo un pubblico affezionato che ci segue, anche di giovani, che sta aumentando, anche per la nostra capacità di parlare ai giovani e di coinvolgerli attraverso le costanti collaborazioni che realizziamo con i vari istituti culturali e con le scuole del territorio.
Voilà l'objectif. Bien entendu, les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances, mais il faut qu'on continue et on continuera. On ne va pas non plus se lamenter de la réponse que nous rencontrons ici, parce qu'il y a quand même un public jeune impliqué qui vient et que nous continuerons, quels que soient les résultats.
Oui, ça me paraît important aussi, Philippe Forget, vous l'avez vu qui est tout à l'heure, des modalités de rencontre, et puis je sais que aussi dans votre autre aspect, il y a l'aspect compositeur mais aussi chef d'orchestre, donc du coup là aussi une mise en forme différente, et toute cette relation justement d'une part avec les musiciens en général, la place de la création dans les lieux d'enseignement aujourd'hui, dans les pratiques d'orchestre aussi également, mais aussi faire en sorte d'aller faire découvrir aussi un très large public et de trouver les modalités justement de ces modes de rencontre pour leur faire appréhender aussi toute cette richesse de ce que peut être l'aventure de la création musicale.
Oui, c'est-à-dire que dans l'inconscient, dans l'imaginaire de la plupart des gens, par exemple en France, un opéra, c'est un lieu, c'est une maison, avant d'être une forme artistique, avant d'être une histoire mise en musique, c'est d'abord un lieu. Donc ce lieu, il y a beaucoup de spectateurs aujourd'hui qui le disent, ne se sentent pas autorisés à entrer. Donc notre boulot aussi en tant qu'artiste musicien, c'est de délivrer des autorisations. C'est-à-dire d'arriver à dire tout le temps, mais il ne s'agit pas de connaître, il ne s'agit pas d'avoir reçu telle ou telle éducation spécialisée pour être curieux. On a le droit d'être curieux, on a le droit de pousser la porte. Et par contre, moi, je continue toujours à m'interroger sur qu'est-ce que nous, artistes professionnels, encore une fois dans la cité, on est capable de délivrer ou d'exprimer comme autorisation pour que les gens se sentent l'envie, le désir et d'écouter cette envie pour pousser la porte. Et puis, la création, c'est la créativité, je veux dire, c'est l'espace de liberté absolue. Donc c'est vrai que donner des autorisations en matière de créativité, ça prend très très jeune. Donc encadrer une démarche créative avec des enfants, avec des amateurs, c'est d'être présent sur toute la mosaïque d'un territoire pour pouvoir en ressentir les sensibilités et puis contribuer à les exprimer pour tout à chacun.
Oui, c'est un peu aussi essayer de faire prendre conscience à chacun que d'abord une démarche de création, c'est un moment de fabrication, de recherche, d'accueil, de curiosité, de confronter à du nouveau aussi en même temps, de l'inconnu, mais que ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement important à développer chez chacun, dans chaque individu. Chaque individu peut être porteur aussi de ça.
C'est un espace de liberté. Et c'est vrai qu'on a, aussi cette tendance ces dernières années à donner une œuvre en création comme si c'était déjà une œuvre de répertoire. Donc on la différencie pas de la symphonie de Brahms qu'on va donner dans le même programme ou du concerto de Mozart. Une œuvre de 15 minutes, moi pour la créer, je dispose de grosso modo deux fois une demi-heure en répétition avec orchestre pour la faire.
Effectivement.
Et ben voilà, c'est pour ça que c'est très agréable de venir ici et d'entendre sa musique dans de très bonnes conditions.
Alessandro Maggini, par rapport à ce que vient de dire Philippe Forget, alors à la fois peut-être sur ce fait d'aller à la rencontre de tous ces publics et puis du temps effectivement, là, du temps qu'on accorde aussi au travail, ça c'est aussi symptomatique effectivement pour un orchestre, lorsqu'on diminue vraiment énormément le travail nécessaire pour entrer dans une œuvre, quand on sait tout le chemin qu'il est nécessaire pour le musicien, pour l'ensemble, la cohérence, la compréhension, et puis surtout avoir la force après de pouvoir le partager, le faire partager à un public qui, lui, va venir aussi à la rencontre de cette œuvre.
Oui, je crois qu'on ne trouvera jamais la condition idéale pour ça, parce que effectivement, c'est ça. Les conditions ne permettent jamais de pouvoir travailler comme on devrait, non, pour obtenir ce qui est nécessaire. Mais donc, on doit travailler en des situations d'émergence. Donc, c'est les rapports entre le compositeur et l'exécuteur, c'est fondamental, parce que si on peut nous entendre et avoir comme objectif l'art et la création, et n'avoir pas, n'être pas obligé par les horaires, par un contrat. Et si on travaille comme ça, ça va pas bien, pas loin, on va pas loin. Mais s'il y a entre les compositeurs et l'exécuteur, ils s'entendent, et pour obtenir, pour arriver à le même objectif, alors, et ça, donc c'est important avoir des rapports au dehors aussi de institutionnels, comment dire, des rapports forts, des collaborations culturelles, qui permet de trouver des moyens de travail pour réaliser des œuvres qui auraient besoin d'autres conditions, mais on peut le faire même s'il y a un bon rapport entre les compositeurs, l'ensemble qui collabore avec enthousiasme, parce que c'est ça le mot. Il faut avoir
être engagé aussi par rapport de ce qui va se mettre en œuvre. Il faut que chacun soit vraiment participant à fond.
Si
je peux
croire profondément.
Voilà, c'est ça. C'est un engagement en tout cas.
Donc pour dans moi, la rencontre, par exemple, le rapport avec Résonance Contemporaine, c'est un exemple, parce que c'est ça, il y a des difficultés, bon, mais l'intention c'est la même.
Lucien Guérinel, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit?
Sur la qualité musicale, c'est même pas réagir, ça me paraît
l'essence même.
Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître que les musiciens individuellement sont très brillants. Voilà. Les instrumentistes.
Tout à fait.
Et même les voix. Je dis même les voix parce que la voix, quand même, est un instrument très particulier, donc plus difficile à manier que.
Plus fragile aussi, bien évidemment.
Mais la qualité des musiciens aujourd'hui, de la jeunesse, est très remarquable. Il n'empêche que la musique est toujours très difficile, qui et qu'elle soit. Et qu'il lui faut consacrer le temps nécessaire pour ne pas, je dirais pas la défigurer, mais pour lui laisser quelques pans tomber le long de son corps, alors qu'il lui faut la parure qui est son intention même. Alors ça, il est vrai qu'on ne rencontre pas ça souvent. Alors le problème des orchestres est un problème majeur, bien sûr. nous voyons aujourd'hui, ou nous entendons aujourd'hui plutôt, même à la télévision, à vos chaînes un peu lointaines, des orchestres internationaux qui sont absolument spectaculaires dans la qualité, avec les grands chefs, avec les grandes œuvres. Bon, alors, on peut imaginer que même, en dépit de leur célébrité constitutionnelle, ces orchestres ont besoin de travailler à chaque fois, parce que ça, c'est une vérité première incontournable, mais ils doivent avoir le temps pour ça. On doit le leur donner. Alors, ça coûte cher, sans doute, mais il y a un résultat. Ce n'est pas le cas partout, ni tout le temps, bien sûr. Et pour la voix, encore plus, hein, parce que la voix, je vous apprends rien, Alain, nécessite une approche vraiment... je dirais pas athlétique, mais très très soutenu.
Très hein, soutenu, oui, tout à fait.
Surtout les ensembles vocaux, qui n'ont pas le secours des instruments, les ensembles a cappella. Bon, ça c'est pour moi la chose la plus, enfin pour moi, je crois que pour chaque compositeur, c'est la chose la plus difficile à réaliser. Hein. Donc ça, il faut un temps vraiment sans lequel il y a un peu de chute. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un problème général. Hein. Mais les ensembles vocaux en France ne se multiplient pas non plus. Hein, je parle des ensembles vocaux, les chœurs.
Oui,
bon, les chœurs sont des chœurs amateurs pour l'essentiel. Hein, en France, si je ne me trompe pas, il n'y a que le chœur de Radio France qui soit un chœur professionnel. Même les chœurs régionaux en France ne sont pas des chœurs professionnels. Hein. Ils ont un statut particulier qui les en approche sans doute, mais ce ne sont pas des chœurs professionnels. Et les ensembles, il y a peu d'ensembles vocaux, il y en a. Ils se sont un petit peu élargis.
Tout à fait, oui, au cours de ces différentes années.
Oui, le goût de la concurrence, de faire bien comme les autres, mais il y a encore du travail de ce côté-là, mais en tout cas, c'est un travail qui est en route et qui nous enchante.
Nous approchons petit à petit la fin de cette émission, mais je voudrais revenir Alessandro Maggini l'a soulevé tout à l'heure et aussi un petit peu Philippe Forget et puis on est ici à l'Institut français, on est à Florence. Ce besoin aussi d'être en lien entre ces cultures et de faire un pont, de revenir aussi sur l'importance finalement de pouvoir régulièrement, au travers de multiples occasions, de pouvoir confronter, être ensemble, échanger, faire. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette voilà sur l'importance aussi de cette nécessité. Et c'est vrai que nos institutions dans chacun des pays sont des vecteurs très importants pour on parlait de liens finalement avec un public, liens aussi même avec, au travers de cette émission, elle est importante dans le sens où elle va retoucher un autre public qui quelquefois n'est pas forcément en lien avec toutes ces questions, mais dont d'autant temps il est très important de pouvoir le faire. Et je pense que là de construire ces liens comme on essaye de le faire un peu ensemble là déjà depuis quelques années finalement, là aussi il y a quelque chose de très important dans se faire voyager les œuvres, dans les faire se rencontrer et d'élargir aussi tous ceux et toutes celles qui pourraient s'aventurer dans cette curiosité-là aussi. Alessandro Maggini.
Je suis complètement d'accord. La culture, l'art, c'est vive si, et a toujours vécu parce qu'elle a voyagé d'un pays à l'autre. La culture florentine a été accueillie en France et c'est la même chose à l'envers. Donc la circulation des idées, des expériences à travers les institutions, c'est fondamental. J'ai eu la chance, par exemple, de connaître la musique de Lucien Garinel grâce à vous, grâce à la France, et pour moi ça a été très important parce que j'ai compris beaucoup de choses que je ne connais pas. Du point de vue de la composition, mais aussi de la formation, c'est fondamental. Et le rôle qui joue les institutions, c'est aussi fondamental. C'est pour ça que je suis très content d'être ici dans l'Instituto Francese di Firenze, parce que c'est un lieu pour faire
tout
ça.
Fait. Isabelle Mallet, effectivement, quand on entend un peu les propos des uns et des autres, peut-être y a-t-il encore un peu plus, vous l'avez dit, il y a une action soutenue hein, de l'Institut français. Est-ce que vous ne sentez pas qu'encore aujourd'hui, il y a encore plus d'urgence, je dirais, à maintenir les liens?
Oui, exactement, et donc à bien choisir à très bien choisir les partenaires parce que il faut que nos artistes puissent être dans des vrais circuits à l'étranger. On n'est pas là pour se faire plaisir et faire de la diffusion. On est là vraiment pour les aider à pénétrer et à collaborer avec des réalités qui existent, qui sont plus importantes et qui font que on a cette identité européenne à défendre et en commun. C'est un moment qui n'est pas facile pour l'Europe, donc il faut le redire. Pour nos artistes, c'est essentiel.
Voilà. Avec, oui, Philippe Forget, vous vouliez réagir. Oui, là, je crois que dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose de très important. Et de responsabilité individuelle aussi de l'artiste, aussi dans ce cas de figure.
Oui, et puis le danger qui a guetté quand même longtemps la musique contemporaine, et qui la guette encore, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire, on est entre personnes qui faisons de la musique contemporaine. Bon, et ça, c'est un danger, parce que ça correspond quand même à des choses qui sont très urbaines. Donc, il y a aussi le périurbain, il y a le milieu rural, enfin, il y a tout. Il n'y a pas que les villes. Et puis, il y a effectivement tout ce qu'on a pu dire de mots qui me semblent très importants ce matin. Et le mot émulation, l'enthousiasme, la force, l'énergie, la vitalité. Donc, tout ça, c'est très palpable. Il faut entretenir ça.
Francesco Gesualdi, on évoque les collaborations, l'importance aussi de pouvoir faire les liens avec d'autres structures, avec des compositeurs de différents pays. Ça vous paraît aussi quelque chose encore d'important à tenir et à essayer de développer encore plus au sein du Gamon?
Io penso che sia già abbastanza sviluppato, semplicemente dobbiamo continuare in questa direzione, con impegno, con idee nuove e con grande capacità di leggere la realtà, che significa sapersi relazionare a queste istituzioni, saper comunicare bene i contenuti dei propri progetti, delle proprie idee e saper in qualche modo proporsi da un punto di vista sia organizzativo che relazionale con massimo equilibrio. Questo noi facciamo e questo porta a dei risultati eccellenti.
Voilà, Isabelle Mallet va nous retraduire vos propos.
C'est déjà assez développé, je dirais. Il est important, au contraire, de continuer dans cette voie avec éventuellement des idées neuves et de savoir aussi communiquer sur tout ce que l'on fait. Cette réalité, elle est importante, mais la communication autour de cette réalité est essentielle et il faut continuer à le proposer comme nous le faisons.
Voilà, c'est un petit peu sur ces propos de Francesco Gesualdi. Vous vouliez rajouter quelque chose, Alessandro Maggini? Voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui aurait pu durer encore plus, tellement le sujet est passionnant et important. Cette émission a été enregistrée le 3 décembre dernier à Florence, à l'Institut français, que je remercie à nouveau de nous avoir accueillis pour réaliser cette émission. Celle-ci a été réalisée avec la complicité de Nicolas Galliot à la régie générale et à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et à très vite sur Radio B.